Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semoun, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balance man, cadence man, trace la classe, c'est le bomb man.
Et allez, allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
Ouh oh. Là. Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mais un rouge là-dessus. Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match, il est pas fini, hein.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là.
Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau match de Gaul Volant. Alors oui, il va y en avoir du sport dans ce match, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aussi passer par plusieurs états. Oui, figurez-vous que pendant cette heure que nous allons passer ensemble, on va sans doute vivre de grands moments de joie.
Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture?
Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Mais on risque aussi de ressentir de la peur.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu trembles? Est-ce que tu aurais peur?
Non, pas du tout, chef. Enfin, peut-être un petit peu. Rien qu'un mini-chouïa d'appréhension.
Parfait!
Dans cette émission, on va sûrement connaître aussi quelques surprises.
Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous.
Une surprise? Mais vous m'avez rien dit.
Bah, c'est un peu le principe de la surprise, en fait.
Peut-être même nous mettre parfois en colère.
Je suis colère, les enfants, je suis colère! Je suis violence parce que je suis trahison!
Ou encore nous morfondre dans la tristesse.
Et c'est pas moi qui pleure. C'est mes yeux.
Voire même ressentir un profond dégoût.
Ok, écartez-vous, je vais gerber. Ok, non, ça va.
Peur, joie, colère, tristesse, surprise et dégoût, ce sont les six émotions de base universelles identifiées par le psychologue américain Paul Ekman dans les années 70. Et ces émotions de base se déclinent en une multitude d'autres émotions. Pour faire simple, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne et elle génère ensuite une réaction extérieure. En fait, de façon complètement inconsciente, notre vie entière est impactée par nos émotions, tout simplement parce que ce sont une de ses fonctions de base. Les émotions représentent un signal social qui nous permet d'adapter notre comportement et d'anticiper les gestes des autres. Et le sport, puisque c'est ce qui nous intéresse surtout dans Gaul Volant, le sport lui aussi génère tout un panel d'émotions. D'abord en tant que spectacle sportif. Je ne crois pas trop m'avancer en disant qu'il n'y a d'ailleurs que le sport pour offrir un spectacle d'émotions à ce point indescriptible. Nulle part ailleurs, la joie ou la tristesse ne s'exprime avec une telle intensité et une telle immédiateté.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Mais les émotions sont également présentes lors de la pratique sportive, que ce soit en compétition ou non. Peur, joie, anxiété, tristesse, le sportif, ou plus généralement le compétiteur, connaît l'émotion sous toutes ses formes. Elles font partie de son quotidien, comme de celui de toute personne qui recherche la performance et qui prend des risques pour l'atteindre. Et moi, en grand sportif que je suis, parce que le sport est avant tout une affaire de corps et de performance, bah j'imaginais bêtement qu'il suffisait d'un état d'esprit et d'un physique de gagnant pour qu'une prouesse majoritairement physique puisse s'accomplir. Mais au fil de mes recherches, je me suis rendu compte que la tête et les jambes des sportifs sont en fait beaucoup plus reliées que ce qu'on croyait il y a encore une dizaine d'années. En fait, derrière un mental d'acier, il y a en réalité une grande complexité et un équilibre délicat d'émotions et de sensations. Et c'est d'ailleurs pour ça que les athlètes sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à faire appel à des préparateurs mentaux, même si cette démarche reste encore un peu taboue.
Tout est dans ton esprit! Dis-toi que tu n'as plus de corps, mon garçon. Tout est là, maintenant. Si tu veux bouger un objet, il faut le bouger avec ton esprit. Il faut te concentrer, si tu vois ce que je veux dire.
Comment fais-tu ça?
Il faut réunir toutes tes émotions, toute ta colère, tout ton amour, toute ta haine, et les pousser profondément au fond de ton estomac. Et ensuite, tu les fais exploser comme un réacteur.
Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, dans ce nouveau match de Gaul Volant, on va s'intéresser aux émotions. Et pour cela, je vous ai sélectionné une belle équipe de grands sportifs émotifs et sentimentaux.
Qui c'est qui est là?
Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi?
Jolie brochette.
autour de moi aujourd'hui ceux qui n'ont pas peur de laisser parler leur cœur et de l'écouter. Et parmi eux, on accueille d'abord un petit nouveau pour qui émotion rime forcément avec appréhension, palpitation ou constipation. Salut Simon.
Bonjour à tous.
De quoi tu vas nous parler ?
Bonjour Mathieu. Eh bien justement, de tout ce qui me traverse comme émotion quand je regarde du sport à la télé.
Parfait. Avec nous également, notre spécialiste en érudition, en conceptualisation et intellectualisation, c'est Alban.
Merci, bonjour Mathieu. Et donc moi aujourd'hui, je vais parler du concept de catharsis que je vais essayer de lier au sport.
Très bien. Lui, ses émotions ne passent que par l'autosatisfaction, la gesticulation et l'alimentation. Salut Jérôme.
Ah, je pensais pas à moi directement, Ok.
Tu veux nous parler de quoi ?
Du dimanche matin.
D'accord.
Voilà, mais dimanche matin, pour être plus précis.
Très bien. Ce qu'il fait vibrer, lui, c'est la révolution, l'insoumission et l'autogestion. Vous l'aurez reconnu, c'est Julien.
Salut, salut.
Je peux pas avoir ça.
Et toi, Julien, de quoi tu vas nous parler ?
De rien. Moi, je suis en troisième mi-temps.
Et donc ?
Ah bah non, je vous dis pas.
D'accord.
C'est le principe de la troisième mi-temps, non ?
Ok. Et si je vous dis abnégation, vexation et décapsulation, vous pensez sans doute à notre Maël.
Maître Canter.
Salut Maël.
Salut à vous.
Alors, et toi ?
Moi, je vais vous parler tout simplement du meilleur jeu de société du monde.
Ah oui. Ouais, je crois savoir de quoi tu parles.
Rien que ça.
Et enfin, tenez-vous bien, ce n'est pas un, mais bien deux petits nouveaux que Golvolant accueille aujourd'hui. Car oui, souvenez-vous, il y a plus d'un an déjà...
Vous apprécierez la diversité de cette équipe, pas de femmes, que des mâles blancs cisgenres d'une trentaine d'années.
Ce n'est donc pas sans une certaine émotion qu'un micro de Golvolant sera aujourd'hui squatté par une femme.
Ouais, génial, vraiment, que du bonheur, hein, RAS, hein, super.
Celle pour qui émotion rime avec traduction, compréhension et récréation. Bienvenue à toi, Charlotte.
Et bonjour.
Et toi, de quoi tu vas nous parler ?
Je vais faire le conseil cul et je vais parler de Ted Lasso.
Bien, les présentations sont faites, vous pouvez sortir vos mouchoirs, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et comme le veut la tradition, on démarre avec notre petit bisu. C'est à toi, Simon, tu peux le faire.
Allez, mon grand ! Allez, mon grand ! Allez, mon grand ! T'es grand aujourd'hui !
Arrête, il va pleurer.
T'es très grand ! Allez, mon grand ! Ouais, mec ! Ouais, mec ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu vas le faire !
Merci pour cette introduction, Mathieu. Vous allez voir que c'est parfaitement choisi pour la suite. Bonjour à tous, bande de nazes. Désolé, hein, le prenez pas mal, mais c'est plus ou moins comme ça que Jérôme parle de vous à l'école.
Oh. On s'en doutait.
Bon, je ne maîtrise pas encore la suavité de la voix de GG, mais ça donne un truc du genre « Ouais, samedi, je vais encore retrouver mon équipe de bras cassés. » Bon, je plaisante bien sûr. Je plaisante, mais, je m'interroge. Je m'interroge sur sa perception du niveau des chroniques de Golvolant quand je prends conscience de l'énergie déployée pour me convaincre de venir à l'émission. Si vous saviez, enfin... Passons. Me voici ici, tout stressé que je suis. Je me lance. Bon, quand je regarde le sport à la télé, je suis traversé par beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Voilà, j'avais très envie de parler de ça. Débuter par une chronique auto-centrée, ça me paraissait être le plus simple.
On a l'habitude ici.
Et voilà. En espérant que certaines et certains s'y retrouvent. Je vous préviens, je vais peut-être chialer. Pour illustrer mon propos, je m'en vais vous narrer ce qui s'est passé dans mon corps et ma tête le 19 juillet 2023, durant l'étape du Tour de France, Saint-Gervais, Courchevel. Thibaut Pinot, mon coureur préféré, la personnalité qui m'a peut-être fait le plus kiffer le cyclisme au XXIe siècle, à la télé et de manière plus globale dans le sport, mon Thibaut donc, est dans le groupe des échappés. Attention, étape mythique. Je vous cite un grand journal sportif, indépendant et toujours objectif. J'ai nommé l'équipe. Plus de 5000 mètres de dénivelé positif sont au programme de cette équipe, de cette étape XXL avec le col des Saisies, le Cormet de Roseland, la côte de Longchevoix et surtout le col de la Lauze, le nouveau géant des Alpes et son final époustouflant. Il faudra alors plonger vers Courchevel et filer vers la piste de l'Altiport, cabré à 18% de dénivelé tout de même. Le morceau de bravoure de cette édition 2023. Oui, je suis aussi imitateur. Bon, il est bien. Il est bien, mon Thibaut. On sent qu'il va faire quelque chose de grand. J'ai déjà les poils qui se hérissent. Je ne tiens plus en place. Je suis comme un dingue. Je fais attention parce que je sais que la petite voisine fait la sieste à côté. Je vous préviens, il est possible que je chiale.
Moi aussi. On attend.
Au commentaire sur France Télévisions, Laurent Jalabert. Je l'aime bien, Jaja. Il a été dopé toute sa carrière. Il n'a jamais voulu avouer quoi que ce soit, mais je l'aime bien. Il est mal placé pour donner des leçons, mais je l'aime bien quand même. Mais là, il y croit pas, Jaja. Il y croit pas, mon Thibaut. Il arrête pas de dire que c'est les autres qui vont gagner, que Thibaut n'a pas le niveau. Il m'énerve, punaise, il m'énerve.
Commence à doucement me faire chier, celui-là aussi.
Il est comme son comparse, là, Alexandre Pasteur. Il n'y croit pas, je vous dis. Pourtant, s'il y en a bien un qui y croit, c'est moi. Dur comme fer. Jalabert, c'est un peu comme un mec de droite avec qui tu peux avoir des points d'accord, mais qui t'agace sévère. Une sorte de... Je sais pas... Si, une sorte de Jean-Pierre Raffarin. Vous voyez tout le monde se rappelle de Jean-Pierre?
Ah, oui, bien sûr.
Win, the yes, need the no to win, again the no.
Hein, mythique. Bon, revenons à nos moutons. Nous sommes dans le col de la Lose, donc... Avant-dernière difficulté de la journée, Thibaut est bien, il est toujours bien placé, il fait le travail. L'échappée a de l'avance sur le peloton des favoris. Les visages des autres coureurs sont marqués et c'est bien ça. Je sens que Thibaut prépare une attaque. Je suis désormais debout devant mon canapé. Allez Thibaut! Apparemment,
c'est vrai, en
fait. Je fais un peu trop de bruit, la voisine a déjà toqué à la porte. Je transpire presque autant que les coureurs. Je suis dedans, impossible de décrocher désormais. Fin de l'ascension, les deux coureurs qui accompagnent Thibaut sont dans le dur. Ils ne prennent plus de relais. Allez Thibaut, c'est maintenant, faut y aller. Je suis en transe, je gueule comme un putois. Oui Thibaut, comme un grand bordel de merde. La voisine tambourine sur la porte désormais, mais je l'entends plus. Thibaut arrache ses oreillettes, il se coupe volontairement de son directeur sportif. T'as raison mon Thibaut, on s'en bat les couilles des oreillettes. J'ai des frissons, j'ai chaud, j'ai froid. Attaque de Thibaut Pinot qui gueule à la télé. Oui, oui, allez. Ça y est, je chiale. Allez mon Thibaut, jusqu'au bout. Bon, excusez-moi, je vais redescendre. Désolé, hein. Ça va, j'ai pas trop gueulé.
Ah, oula ! Oula !
J'ai un peu trop gueulé, ça, non ?
Bon, en fait, je réalise que je suis dans mon lit, en nage. Il est 3h du mat', réveillé par ma transe. On est le... Putain, je sais même pas. Le tour est terminé depuis longtemps. Thibaut l'a fini sans rien gagner. Chienne de vie. Bon, alors par contre, je m'inscris en faux avec l'autre Gugus du match de goal volant sur le thème sport et alcool, qui devait être encore alcoolisé d'ailleurs quand il a rédigé sa chronique, comme quoi, soi-disant, quand on picole la veille, on dort bien. Alors clairement, pour moi, c'est faux. Le contenu de cette chronique en est le contre-exemple parfait. Je vous laisse deviner de qui on parle. Bon, c'est bon, je me sens mieux. Je l'avais bien dit, j'étais pas loin de chialer. En tout cas, Thibaut Pinot reste et restera à jamais une étoile parmi les étoiles du sport et du cyclisme. Pour ceux qui ne savent pas, il a pris sa retraite. En tout cas, il est pas loin de la prendre. Je conclue cette chronique avec un conseil et un souhait. Vous avez eu une journée de merde, vous vous sentez triste et mou, je vous invite à regarder à l'envi quelques pépites télévisuelles du sport français et international pour vous revigorer. Perso, j'ai une petite accointance pour la finale du 4x400 mètres féminin au championnat d'Europe d'athlétisme de Zurich en 2014, avec le retour fulgurant et surtout inespéré de Floria Gay. Magique.
Alors peut-être.
La Britannique est en train de craquer, pas
Floria, allez.
Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique a temporisé.
Là, 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 là.
Allez,
allez, encore.
C'est monstrueux.
Magique, je vous dis, magique. Elle finit championne d'Europe. Plus efficace, mais finalement plus sobre, les frissons occasionnés par le visionnage des records du monde d'Usain Bolt à Berlin en 2009. Je me les refais en boucle régulièrement. Le 800 mètres de Pierre-Ambroise Boss à Londres en 2017, ou le dernier essai à 5,97 m de Lavillenie au JO de Londres en 2012, pour ne citer que. En tout cas, j'espère vraiment qu'avec tout le mal qu'elle et qu'il se donne, que les sportives et sportifs de haut niveau ressentent d'aussi belles émotions que j'en ai à les regarder exceller. Merci de m'avoir écouté.
Ben merci à toi, Simon. Belle première.
Oui, carrément.
C'était une chronique gueulée et patriote, mais elle était vachement bien quand même.
Ah, j'avais prévenu.
Ouais, les émotions devant la télé. Ça me rappelle un peu les émotions du supporter solitaire qui est notre grand absent du jour, Flo.
Par exemple, j'ai regardé la finale de la Coupe de France tout seul sur mon canapé avec mes écouteurs sur mon téléphone portable, véridique. Ma meuf regardait à côté une série, tranquille, enfin presque tranquille, parce que dès que mon équipe marquait un but, je hurlais comme un débile, et du coup je me faisais engueuler. Voilà, voilà ma vie de supporter. Voilà, c'est un peu un résumé de mon supporterisme, un plaisir solitaire, je sais pas si c'est la bonne expression, et qui fait un peu chier les gens autour de moi.
Alors il y a les émotions qu'on peut ressentir devant son écran, comme tu disais Simon, et puis celles qu'on peut ressentir en direct, dans le stade, émotions qui peuvent transformer même le plus sage des hommes.
Oh non ! Allez, Maurice !
vite.
C'est soft. On a pire de lui, je crois. Alors effectivement, tu l'as dit Simon, et puis je l'abordais un peu dans ma causerie d'avant-match, les sportifs passent par tout un panel d'émotions pendant leur pratique. Il y a un chercheur de la Fac des sciences du sport de Marseille, Hubert Ripoll, qui travaille notamment sur les processus mentaux, le traitement de l'information et la décision dans le sport. Il a sorti en 2018 un bouquin intitulé « Les champions et leurs émotions », dans lequel il explique que les sportifs en général s'accommodent de leur mental et cohabitent parfaitement avec leurs émotions. Mais ça, c'est quand aucun événement ne vient perturber leur équilibre ou quand l'enjeu et la pression sont faibles. Pour lui, une bonne préparation mentale passe par deux aspects, la maîtrise des émotions, et en particulier l'inhibition des émotions négatives, et la régulation des niveaux de conscience, c'est-à-dire l'adaptation du système nerveux aux contraintes et aux demandes du sport pratiqué. Donc, selon Ripoll, les émotions, dans la mesure où elles transcendent le sportif, vont permettre d'atteindre le maximum de soi. Une émotion positive peut faciliter, et une émotion négative peut inhiber.
Il se demandait si la secousse imprévisible n'allait pas l'arracher des marches ou, bien campé sur ses talons ferrés à glace, il se tenait en équilibre, instable, pour le projeter sur le vieux guide qui sans relâche taillait la glace. Alors, adieu à tous. Et servait à s'imaginer la quadruple dégringolade et les corps rebondissant d'un bord à l'autre du couloir. Pour la première fois de son existence, Servetas tenait entre ses mains des vies humaines dont il était responsable. Peu à peu, l'angoisse qui lui serrait le cœur fit place à un sentiment nouveau, fait de force, de confiance en soi-même, de fierté. Les battements précipités de ses artères s'étaient calmés, et lorsque son tour vint de descendre, en dernier, moment délicat où il n'est plus question d'être aidé, il planta résolument les talons dans la pente et, face au vide, le piolet appuyé de côté pour maintenir l'équilibre, il rejoignit la caravane. Frison Roche, premier de cordée.
J'ai une pêche, moi.
Non, mais je voulais quand même vous partager cet extrait de premier de cordée qui, je trouve, illustre plutôt joliment cette idée de maîtrise des émotions et du fait de s'en servir pour se transcender.
C'est un discours de Macron.
C'est un peu comme ce que ressent le boxeur dans le titre d'Oxmo Puccino, L'un de nous deux, que je vous propose d'écouter.
Ce soir, il prendra les 400 coups. À ta chute ou à sa perte, les paris vont doubler. Être une star à la sueur de son cœur, le corps marqué par l'absence de la peur. Il s'agit pas de chats violents, juste des poids lourds dans une danse violente. Prix Pulitzer, l'expression corporelle, une collision de bulldozer, un triple accident de char d'assaut. Car il va falloir que tombe l'un de ces deux garçons ce soir. Ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, les vrais fous se font pas interner. Ils rêvent les yeux ouverts, poings fermés. De toute façon, y a pas de sous-métier. Encore moins celui de champion du monde entier. Tellement ne savent pas, quand t'es seul sur le ring. J'en ai vu dans ce cas, leurs jeans sentaient l'urine. La vie est ironique, s'échapper des ruelles pour vivre de duels. À la fin, y'aura qu'un type à l'horizontale. Le respect est mutuel. Mais ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite. J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir, l'un de nous deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite. J'ai une histoire à fonder, cela implique que ce soir. La tête haute, le corps aéroporté, dans la bulle que forme la corde à sauter. Instinct de survie prononcé, c'est le combat de l'épuisement contre la volonté. C'est de là qu'elle est partie l'action, une science dont vous n'avez pas la notion. Courir les milliers de kilomètres, se nourrir par la force et finir honnête.
Mélange douceur le son du cuir qui cogne. Il est pas né d'une cité mais d'une cigogne. Hélas, ce soir, hélas, ce soir, l'un ou deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir, l'un ou deux doit tomber en public. Depuis ton visage sur mes miroirs, couche-toi vite, j'ai une histoire à fonder. Cela implique que ce soir.
Vous êtes toujours à l'écoute de Gaulle Volant, le podcast Sport et Société qui s'intéresse aujourd'hui aux émotions dans le sport. On vient d'écouter l'un de nous deux, d'Oxmo Puccino, et je vous propose tout de suite de poursuivre avec la chronique philo du professeur Alban.
Un philosophe a dit un jour, le mystère des pyramides, c'est le mystère de la conscience dans laquelle on n'entre pas.
Chez Nietzsche, la liberté doit se conquérir en quelque sorte contre les institutions, alors que chez Rousseau, elle doit être garantie par les institutions.
Ah ben voilà, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Alors de toute évidence, le sport est aujourd'hui le spectacle le plus consommé au monde. Ce qui en fait le spectacle le plus prisé et le plus rentable, comme le montrent les dépenses somptuaires des clubs de football saoudiens cet été. Et ce, à n'en pas douter, dans une perspective étatique de soft power. Or, ce qui fait du sport, et plus particulièrement du football, le spectacle le plus cher au monde, c'est à mon sens le rapport particulier qu'il entretient à l'émotion. Alors que le sport procure des émotions, on ne peut pas en douter, et je ne perdrai pas notre temps à énumérer les exemples. Souvenons-nous simplement du bilan matériel des célébrations de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde masculine de football en 2018. Alors, Rennes était un peu à sac, dans mon souvenir. Alors, mais pourquoi ce lien si particulier entre le spectacle sportif et l'émotion? Quelles sont les émotions en question? Enfin, même si tu les as déjà rappelées, Mathieu, j'y reviendrai. Et surtout, quels sont les biais qui font du spectacle sportif ce véhicule si puissant de l'émotion? Alors, mon hypothèse, qui est une hypothèse, est que l'on peut voir dans le spectacle du sport le lieu d'une catharsis, c'est-à-dire un lieu où le spectateur, en vivant de manière momentanée certaines émotions brutales, se purge de celles-ci, de façon à moins les subir dans sa vie quotidienne. Alors, mais cette hypothèse fonctionne-t-elle vraiment jusqu'au bout? Jusqu'où peut-on comparer le spectacle sportif contemporain avec le théâtre antique, dont la fonction cathartique était la raison d'être? Alors le rapport du spectacle aux émotions est un thème aussi ancien que la philosophie elle-même. On en retrouve des traces chez Aristote, auteur de la célèbre théorie de la catharsis. Donc Aristote, hein, ce grec de l'Antiquité. Alors mais qu'est-ce que ce concept de catharsis? Commençons par rappeler le contexte. On est dans la Grèce antique, vers le 4e siècle avant notre ère, dans ce berceau de la civilisation occidentale. Chaque cité, et plus particulièrement la plus grande d'entre elles, Athènes, donc chaque cité dispose d'un grand édifice public, un théâtre, dans lequel la quasi-totalité du peuple se presse régulièrement pour y observer des pièces de théâtre. Alors dans ces Roison Park de l'époque, sont jouées des comédies et surtout des tragédies. Donc un peu comme au Roison Park, finalement. Alors l'omniprésence de ces théâtres dans toute la Grèce antique est l'indice d'une fonction sociale déterminante que notre bon vieux Aristote, en vrai philosophe, va s'efforcer de penser. Cette fonction, eh bien, c'est, vous l'aurez compris, la catharsis. Alors voilà comment Aristote définit ce concept, là je cite Aristote, « La catharsis est l'imitation qui accomplit, au moyen de la pitié et de la terreur, la purification du spectateur en le délivrant des émotions du même genre. » Alors pour faire simple, voilà le mécanisme. Il y a un spectacle dans lequel des personnages vivent des situations extraordinaires, que ce soit au niveau comique ou au niveau tragique. Ces personnages de théâtre, on va s'identifier à eux et ils vont nous faire vivre, par le biais de l'empathie, des émotions fortes liées aux situations dans lesquelles ils se trouvent empêtrés. Alors le héros tragique par excellence, c'est ce bon vieux Œdipe. En nous identifiant à lui, ce personnage qui avance vers son destin funeste en s'efforçant à tout prix d'y échapper, nous vivons tout un panel d'émotions hors du commun, comme la honte que peut ressentir quelqu'un qui a épousé sa mère et tué son père. C'est pas banal. Alors donc, on a des personnages auxquels on s'identifie, on vit à travers eux des émotions, mais dans quel but? Pourquoi les Grecs étaient à ce point mordus de théâtre? Eh bien, on peut penser que le but de la catharsis est double. D'une part, j'ai accès à des émotions que je vis sur le moment de la représentation, de façon à les liquider, les purger, comme je disais tout à l'heure, et donc de façon à ce qu'elles aient moins de force dans la vie réelle. Par exemple, je vis avec Œdipe le meurtre du père, ce qui me soulage et me permet d'être moins enquiquiné par ce désir dans la vie réelle. au cas où j'ai envie de tuer mon père. Alors, ou alors, je me fous bien, dans le cas d'une comédie, je me fous bien de la gueule d'un personnage franchement comique, ce qui me permet d'être moins moqueur dans mes rapports réels avec les autres, étant donné que le personnage de fiction sera toujours au top level. Alors, le deuxième but de la catharsis, qui est relié à ce premier but, est plus théorique. La représentation des émotions me permet aussi de réfléchir dessus, plus facilement que si c'est moi qui les vis. Donc, il y a un biais d'objectivation. C'est ici la force morale de la catharsis. Je vis les émotions d'un individu qui a fait de la merde, comme tuer son père, épouser sa mère. Et étant donné que ça donne des choses pas très jolies, ça me donne pas envie de faire la même chose. Ça me rebute. Ainsi, ce qui arrive à Oedipe après son aventure incestueuse, c'est pas très joyeux. Il finit aveugle, solitaire, etc. Donc, bon, ça nous permet de réfléchir. Alors voilà, j'ai fini mon topo sur la catharsis. Il est peut-être temps d'en revenir au sport, car c'est quand même un peu le thème de l'émission. Alors, mon hypothèse est qu'il y a cet aspect cathartique quelque part dans le sport-spectacle et que c'est le principal levier pour lequel on l'aime autant et pour lequel on paye aussi cher. Alors, essayons de suivre cette hypothèse, je vais esquisser cette hypothèse. Alors déjà, par identification au sportif, on vit une bonne charge d'agressivité. Et ça, ça fait du bien, il n'y a pas à chipoter. C'est loin d'être un hasard si la boxe anglaise est le sport qui se vend le plus cher à la télé américaine. Assister à un match de boxe ou une rencontre de tennis, c'est assister au spectacle de deux personnes qui vont se taper dessus, directement ou par l'intermédiaire d'une balle. Et nous, on va participer de manière indirecte à cette bonne baston qui fait du bien. Alors j'en arrive maintenant à la deuxième émotion. Tout n'est pas à faire que de violence, on va dire. Assister à une rencontre sportive, c'est pas seulement expérimenter l'envie de se battre, c'est aussi, là encore par l'empathie, connaître l'angoisse, la peur de la mort violente. Et l'adrénaline, le plaisir qui accompagne cette peur. Qui ne s'est pas rongé les ongles, ou pire, au moment où l'équipe de France de football était menée 2-0 contre l'Argentine, et donc dans un coma presque létal. Un Mbappé christique viendra la ressusciter quelques instants plus tard, provoquant chez nous l'impression d'être revenu d'entre les morts. D'ailleurs, le langage ne s'y trompe pas. Que ce soit en hockey sur glace, en football américain ou en foot, on parle de mort subite, pour désigner le moment où une équipe l'emporte en prolongation par le biais d'un but en or. C'est bien l'impression que ça donne effectivement lorsque Dave Trezeguet marque en finale de l'Euro 2000 et met fin au match et aux espoirs italiens. Il a la prestance d'un matador qui met fin à la vie du taureau. Taureau de nationalité italienne en l'occurrence. Allez, c'est cadeau.
Et Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti pied gauche. Double contact, Pires qui va redresser peut-être pour Trezeguet qui frappe. Oui,
Trezeguet ! But à mort ! But à mort !
On aura reconnu le bon vieux Eugène Saccomano qui s'excite donc sur ce but à mort. Alors agressivité, angoisse de mort, on voit en quoi le sport nous prend aux tripes. Mais ce n'est pas tout. J'en arrive à la troisième émotion. Dans le sport, il y a aussi les grands moments de solitude, les scénarios tragiques, provoquant chez nous un plaisir coupable semblable à de la cruauté. En voici un exemple.
Régis Forestier, le groupe Indurain, s'il vous plaît. On m'annonce que Miguel Indurain serait en difficulté. De l'hélicoptère, on ne voit plus Miguel, en effet. Il serait en difficulté dans le groupe. Ce serait le couronnement de cette journée. Miguel Indurain est là au centre de l'écran. Il est lâché dans le groupe. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Alex Zoulé est là également en difficulté. Alex Zoulé est en difficulté, mais derrière lui, Indurain, comme on ne l'a jamais vu dans le Tour de France.
Ah, il s'agit ici de mon tout premier souvenir du Tour de France, la défaillance du roi Miguel sur les pentes alpines en 1996. Le moment de la défaillance du champion cycliste est un de ces moments intenses et paradoxaux où l'on ne sait pas trop si on est triste ou joyeux. Car il y a quand même un côté plaisant à voir un grand champion s'écrouler. Certes, par identification, on est triste pour lui, mais quel fabuleux spectacle que de voir en direct la mise à mort du roi. Enfin, le côté tragique du sport peut faire naître une colère, un sentiment d'injustice. Ce sera la quatrième émotion que j'évoquerai, la dernière. Mais laissons la parole aux spécialistes.
Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas croyable qu'il accorde pénalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud.
Merci pour ta franchise, Thierry. Mais alors, en quoi vivre une expérience d'injustice, ça peut être cathartique ? Eh bien, peut-être que ça apaise d'une certaine façon de se prendre un bon shoot d'injustice. Ça permet sans doute de moins subir l'injustice, la vraie, celle du réel, où tout le monde, c'est un fait, ne part pas dans l'existence avec les mêmes données de base. On vit l'injustice du spectacle sportif à fond, on l'expérimente pour que l'injustice réelle, la vraie, la dure, elle passe mieux durant la semaine. Agressivité, angoisse, cruauté, colère, on vit tout ça à travers le sport. Il me semble que la théorie d'Aristote touche quelque chose de réel, quand on l'applique au sport. On se sent comme épuisé, lavé, purgé, après 1h30 de finale de Coupe du Monde, ou 3h de finale de Roland-Garros, ou une étape du Tour de France avec Thibaut Pinot. Surtout lorsqu'il y a eu du spectacle. Alors, mais je pense que cette comparaison établie entre le sport-spectacle et le théâtre autour de la notion de catharsis a quelques limites que je vais brièvement évoquer pour finir. Alors d'abord, ce qui fait la force dramatique du sport peut aussi être sa faiblesse. Ça n'est pas écrit à l'avance, au contraire d'une pièce de théâtre. C'est ce qui peut donner lieu à des scénarios improbables, mais pour la même raison, c'est aussi ce qui peut faire flop. Petit, j'allais régulièrement au stade avec mon père, donc stade du Roudourou pour être précis, et souvent j'en ressortais frustré par le score nul et vierge du match.
Je connais, oui.
En mal d'émotions fortes. On touche là à une limite du spectacle sportif, il faut de l'imprévisibilité, car sinon il n'y a pas d'émotion, mais le fait que le scénario n'a pas été écrit peut donner lieu à un spectacle terne et ennuyeux, comme c'est parfois souvent le cas dans le foot. À rebours, et c'est la deuxième limite que j'évoquerai, l'ultralibéralisme de l'économie du sport crée tendanciellement un spectacle standardisé, dans lequel tous les personnages se ressemblent ou presque, dans un modèle lisse. Or, pour qu'il y ait de l'identification, le spectacle sportif doit contenir son lot de personnalités hors du commun, comme par exemple des mauvais garçons ou des mauvaises filles, afin d'amener un peu de sel dans tout ça. On regrette les McEnroe ou les autres Billie Jean King qui savaient sortir du cadre qui leur était fixé par le système marchand. C'est moins le cas pour Cristiano ou d'autres. Bon. Enfin, la dernière limite que j'évoquerai est sans doute la plus importante. Le rôle du théâtre antique était de purger le spectateur de ses émotions, notamment les plus violentes, ce qui donnait au théâtre une fonction sociale de pacification. Est-ce vraiment la même chose qui se passe pour le sport-spectacle ? Malheureusement, de nombreux faits de l'actualité récente nous montrent que la violence a du mal à ne pas se diffuser du terrain au gradin, et ce de manière exponentielle, car un coup de barre de fer, ça fait plus mal qu'un tacle glissé, même de Dimeco. Alors mon avis est que la fonction cathartique fonctionne, mais pas jusqu'au bout, car il manque quelque chose au spectacle sportif. Il est trop réel, pas assez symbolique. À l'inverse de l'art, la barrière de la représentation ne se met pas entre le spectacle et les tribunes, ce qui fait que la violence symbolique propre au spectacle se transforme souvent en violence réelle. On a du mal à se dire que le sport n'est qu'un jeu, alors qu'il est plus simple de se dire qu'un film n'est qu'un film, et que ça ne compte pas vraiment. Alors que bon, le match quand même. Voilà, cette porosité entre le spectacle sportif et son contexte réel explique qu'il peut devenir en fait un vecteur inégalable de tension et de violence sociale. C'est l'aspect paradoxal. Bon alors, et vous, qu'en pensez-vous ? Le spectacle sportif, d'après vous, apaise-t-il les sociétés ? Ou au contraire, les embrasse-t-il ? Je pose cette question au cas où il y aurait des réflexions.
Ben, du coup, moi je pense que les deux. Ça dépend du spectacle sportif. Voilà, si on parle du foot notamment, je pense qu'il a le pouvoir de rassembler les gens. Par exemple, quand tu parles de la Coupe du Monde, ça rassemble les gens sous l'appartenance nationale. Y a plein de gens qui n'aiment pas le foot par ailleurs, qui pendant la Coupe du Monde vont faire l'effort de regarder, vont soutenir leur équipe. Inversement, je pense que dans la même idée, ça crée aussi une certaine adversité. On devient plus violent et plus... comment dire, acide envers les autres équipes, les opposants.
Mais je crois que tu as tout à fait raison. Enfin, je veux bien rebondir sur ce qu'a dit Charlotte. C'est que finalement, il y a vraiment une frontière très fine entre le côté pacificateur du sport, où en effet, on va se rassembler, on va vivre un combat symbolique dans le match, et son côté plus qui amène la violence. Mais je crois vraiment que cette frontière, c'est le fait de considérer que c'est qu'un jeu, quoi. Enfin, pour moi, c'est plus que différents sports, c'est plutôt la représentation qu'on a du jeu.
Jérôme, tu voulais dire quelque chose ?
Non, mais après, j'étais aussi un peu justement sur le foot, parce que c'est ce qui... Peut-être t'en as beaucoup parlé, ce qui est un peu le plus saillant. J'ai presque l'impression qu'il y a aussi une nouvelle forme de violence qui est apparue, notamment le hooliganisme. Je ne sais plus quand est-ce que c'est apparu, mais j'ai l'impression que c'était au départ peut-être une révolte politique. Qui, je pense, est venu se nicher à d'autres endroits en exacerbant les rivalités. Et que maintenant, c'est devenu presque un produit de violence légitimé, je ne sais pas comment le dire, mais par certains, que ça devient quelque chose de... Et je pense qu'il y a deux manières de vivre le spectacle du football. Je pense qu'effectivement, il y a un côté cathartique de Coco, qu'on entendait tout à l'heure, notre chroniqueur habituel, qui vraiment se défoule, lâche tout quand il regarde un match. Et en même temps, il y a des gens qui le vivent comme si ça venait... légitimer une forme de violence supplémentaire, celle du derby, celle des rivalités.
Ouais, justement, parce qu'il n'y a pas cette frontière, quoi, entre le fait que c'est juste un jeu ou c'est vraiment quelque chose de réel, on se tape dessus.
Oui, il n'y a pas le côté faire semblant, comme tu disais, de la fiction, du cinéma, des séries. Tout
à fait. Après, ça devient le supportarisme, je ne sais pas comment on dit, mais ça devient aussi une excuse pour la violence. Enfin, moi, j'ai des souvenirs au lycée. Alors, j'étais au lycée pas loin de Saint-Gervais, justement. Et il y avait quand même l'opposition entre ceux qui étaient pour le PSG, ceux qui étaient pour l'OM. Et c'était un truc, c'était normal de se taper dessus avec ça. Alors que clairement...
Ouais, pour rebondir là-dessus, moi j'ai des élèves qui ont failli en venir aux mains à cause d'une histoire de Barcelone versus Real Madrid, alors qu'on était en Bretagne, à Fougères.
Tout à fait.
A priori, ils n'en ont rien à foutre. Mais...
Ouais, je partage pas mal ce que tu disais tout à l'heure au niveau des émotions ressenties sur les, ce côté bave, le goût du sang un peu, là, le héros, le champion qui chute. Mais par contre, j'ai pas assez de recul pour savoir si ça m'apaise, moi, dans la vie derrière. Enfin, par contre, cette émotion-là, Ouais, non, mais c'est difficile de savoir si derrière, tu te sens plus bienveillant envers les autres, plus sympa avec ton voisin qu'un connard, ou avec tes collègues qui te font chier. Pas tous, hein, certains, certainement. mais par exemple, je pense à... la dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était au championnat du monde d'athlétisme, là, ce mois-ci, il y a un Norvégien dont j'arrive pas à prononcer son nom, mais il a un nom imprononçable sur 1500 et sur 5000. Dans les séries du 1500, il s'est permis à 100 mètres de l'arrivée de faire genre tout est facile. Il a demandé au public de le suivre. Il a levé la bras comme ça. Personne fait ça. Enfin, genre, c'est d'une prétention. Pour d'ailleurs fumer tout le monde sur la série parce qu'il était facile. Et il se fait niquer sur la finale sur la ligne. Et moi, j'ai joui en regardant ça. Je veux dire, j'étais trop content que ce petit con se fasse. Alors que c'était le favori. Bref. Et donc, du coup, je sais pas en quelle mesure ça m'a rendu plus bienveillant le lendemain. Mais
Bien. Merci professeur et merci à tous d'avoir su contenir vos émotions dans ce débat tendu, hein, mais constructif. Tu l'abordais Alban, souvent quand on demande quels sont les moments où les émotions sont particulièrement fortes dans le sport, on évoque toujours le moment de la victoire et puis bien souvent aussi celui de l'anéantissement de la défaite. Ce sont bien des émotions uniques et on s'en rappelle justement parce qu'on les a éprouvées si on est un sportif ou parce qu'on les a partagées si on est spectateur. Alors oui, ces émotions jouent un rôle déterminant dans la poursuite de la carrière sportive ou dans notre assiduité de spectateur. Mais Hubert Ripoll, dont je vous parlais tout à l'heure, il explique que ces émotions ne concernent que l'aspect visible d'un ensemble de processus qui ont lieu avant, c'est-à-dire pendant la compétition ou la performance elle-même. Les sportifs avec qui il a travaillé évoquent très souvent ces émotions ressenties pendant la compétition, car c'est là que tout se joue. D'abord dans leur corps, où l'émotion est une affaire de sensation, puis ensuite dans leur tête, où ils sont inhibés ou transcendés par elle. Alors, il y a les émotions associées au corps en lui-même, en relation avec les sensations et la maîtrise du geste, comme la vitesse, la coordination ou la précision. Ripoll explique qu'il y a de la sensation à ressentir le mouvement et de l'émotion à le contrôler. Ces émotions, elles sont primaires et viscérales, et elles produisent toujours de la jouissance, une forme d'orgasme qui entretient le désir de toujours recommencer. Ripoll cite par exemple dans son livre Diagana, qui dit pratiquer l'athlétisme uniquement pour ressentir ces sensations. Et puis, il y a aussi chez les sportifs une forme d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à percevoir, à comprendre et à maîtriser une émotion qu'on ressent, tout comme la capacité à distinguer et décoder une émotion chez les autres.
Les paroles de son entraîneur résonnent dans la tête de Richard, qui les accueille en pensant au combat qu'il mène depuis des mois contre l'anxiété. Oui, seule la concentration pourra le sauver. La concentration jusqu'à l'éblouissement, jusqu'à l'expansion de la lumière blanche dans son champ de vision quand il fixe un point invisible devant lui. Les épreuves commencent. Il perçoit le trac ou la confiance qui anime les autres, absorbe leurs humeurs dans une léthargie maîtrisée, puis revient au sautoir, aux sensations des jambes. C'est à son tour. Il ferme quelques instants les yeux, happé par la lueur orange qui vibre derrière ses paupières. Il les rouvre, il fait monter le silence. Il voit son saut. Il réagit instantanément. Impulsion, mouvement des bras, appui profond des jambes, il s'élance dans les airs. Un millième de seconde plus tôt, il s'assoit sur la barre. Un millième de seconde plus tard, il la fait tomber. Mais le mouvement s'accomplit. Fanny Wallendorf, l'appel.
L'appel, c'est celui de Richard Fussbury, dont Fanny Wallendorf brosse le portrait dans son roman, pas forcément celui du sportif, mais plutôt de l'homme qui habite le corps du champion avec toutes les émotions qu'il traverse. Et puisqu'on est dans la culture, restons-y. C'est le moment du conseil Q de Charlotte.
Le conseil culturel de Gaulle Volant.
Le conseil Q culturel.
Le conseil Q.
Je sais pas si j'assume bien de passer derrière ce jingle, mais...
On va le changer.
Donc moi, je suis là pour le conseil cul, du coup, je suppose qu'on va dire. Bah, ça tombe bien, parce qu'en termes de conseil sportif, je suis pas bien performante, alors qu'en termes de culture, au moins, je peux potentiellement faire illusion. Donc voilà, je vais vous parler de Ted Lasso. C'est ma série préférée. Ted Lasso est une série télévisée américaine de comédie sportive créée par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly. Diffusée depuis le 14 août 2020 à l'international sur Apple TV+. Merci Wikipédia. Allez, on y va ? Est-ce que vous l'avez vu cette série ?
Non,
non, non,
oui.
Non.
Ah, bon.
Ah oui.
Ah oui. Est-ce que ce oui a aimé la série ?
Il a adoré.
Ah, merveilleux. Donc, je vous fais un petit pitch rapide. Ted Lasso est un coach de football américain. Un peu farfelu, il danse avec ses joueurs, il a une belle moustache et il semble toujours de bonne humeur. Il coach au niveau universitaire. Donc, pas mal, mais pas ouf. Il déménage à Londres car il a été engagé en tant que coach par Rebecca Welton, la nouvelle présidente du club de football, le vrai football cette fois-ci, celui qu'on joue ici, de Richmond. Un club plutôt bif-bof de première division, ou en l'occurrence de Premier League. Alors il faut d'abord savoir que si je ne suis pas une experte, ce n'est pas pour autant que je déteste le sport en général. Mais bon, le foot... Ah, le foot... Ça me saoule.
Ah,
voilà. Désolé, Golvolant.
On avait compris.
J'ai pas trop le temps, donc je me permettrai de m'expliquer par quelques mots seulement. Charavoil, Qatar, PSG et Bernard Tapie.
Ouais, c'est pas mal résumé.
Pourtant, ma série préférée parle de foot, et je dirais même plus, je sais pas si je l'aurais aimé autant si elle avait parlé de basket ou de tennis. Parce que voilà, justement, le foot, c'est un peu le symbole de la masculinité hégémonique. La masculinité. Oh. Hégémonique, c'est l'expression de la masculinité la plus acceptée et encouragée par la société, c'est-à-dire être un bonhomme. Que ce soit dans les vestiaires où on imagine facilement l'ambiance bien virile, le terrain qu'on compare volontiers à un champ de bataille, les gradins dont émanent des chants, des insultes, des cris, ou enfin le traditionnel pub anglais où on retrouve l'ambiance des gradins, la bière en plus. Si on ajoute à tout ça un coach qui vient du sud des États-Unis avec un accent à couper au couteau, ben sur le papier, ça ne me fait pas rêver. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai laissé passer au début. Et quand je m'y suis finalement mise, j'ai pas pu décrocher. J'ai regardé les deux premières saisons en une semaine, je pense. Cette série, c'est un bonbon. Elle nous prend là où on ne l'attend pas. On s'attend à ce que Ted Lasso soit un beau redneck et à ce que les joueurs soient des beaux londoniens. Que nenni. Ted reste très stéréotypiquement américain, bien sûr, j'ai réussi à le dire, avec sa bonhomie, sa naïveté, voire ignorance parfois, mais il est le coach, le prof, le parent qu'on aurait tous voulu avoir. Malgré ses failles, il est profondément optimiste, indulgent, et il a à cœur de faire progresser ses joueurs sur le terrain et dans la vie. C'est déjà une très belle performance de créer un personnage aussi multiple et profond. Oui, car sans trop en dire, notre coach préféré n'est peut-être pas si heureux qu'il veut bien le laisser croire. Mais tous les personnages sont très bien construits. J'aurais envie de vous faire toute la liste de Roy Kent, qui grogne plus qu'il ne parle, mais qui connaît toutes les paroles de Libéré, délivré de la Reine des Neiges grâce à sa nièce. À Rebecca Welton, une femme trahie et amère, mais également une figure d'autorité et de bienveillance. En passant par Jamie Tartt, le jeune talent prétentieux, et Killy Jones, la gentillesse incarnée. J'ai pas le temps de citer les autres, mais croyez-moi bien que ça me brise le cœur. Dans cette série, on nous peint un tableau d'optimisme, d'acceptation de soi et des autres, et de progrès. Les personnages parlent entre eux de leurs soucis, se confrontent à leurs émotions et se créent une vraie famille. On nous peint une toile de divers sentiments, la colère, la peur, l'amour, l'angoisse, la haine, l'espoir, l'amitié et le pardon. Tout tourne autour des émotions, celles des personnages comme les nôtres. On voit des hommes qui pleurent, et pas qu'à cause de la beauté du sport. On voit des femmes qui s'affirment, et nous aussi, on rit et on pleure. C'est une série qui fait du bien à l'âme et aussi nous laisse même entrevoir ce que pourrait être le foot dans d'autres conditions. Je pense particulièrement à un épisode où Sam Obisanya, c'est un des joueurs de l'équipe, et ses coéquipiers décident de cacher leur sponsor car il est possédé par une compagnie pétrolière qui détériore le Nigeria. Cette image de toute l'équipe des Greyhounds avec le scotch noir sur le maillot me donne aussi de l'espoir concernant ce sport. Et je me suis peut-être moi-même prise à chanter « We're Richmond till we die, we're Richmond till we die. We know we are, we're sure we are, we're Richmond till we die.
Richmond till we die, we're Richmond till we die.
We know we are, we're sure we are, we're
Richmond till we die.
Richmond till we die.
Richmond till we die.
We know we are.
We sure we are.
We're Richmond till we die.
Now Richmond.
Et voilà.
Merci Charlotte. C'était Aimé Mann avec Wise Up qu'on entend dans le premier épisode de la saison 2 de Ted Lasso, celui où Danny tue le chien Earl en tirant un penalty. Morceau qui était aussi dans le film Magnolia de Paul Thomas Anderson dans une scène d'anthologie qui me fait toujours chialer.
Yes, oui, désolé, coach.
Mais non, t'as pas à être désolé, t'inquiète. Tu sais, ce qui s'est passé entre Earl et toi, c'était pas ta faute. Non, t'as été la victime d'une coïncidence improbable et tragique. Un peu semblable à celles qui sont dépeintes dans l'opus de 91 de Paul Thomas Anderson, Magnolia.
Saul Louis ou Tom Cruise a une petite queue de cheval ?
Ah non, Danny, tu confonds avec le dernier samouraï.
Il a aussi une toute petite queue de cheval dans Magnolia, coach.
Ah, merci, coach. Toutes mes confuses, Danny. Tom Cruise a osé la toute petite queue de cheval dans les deux films.
Oui.
Bon. Désolé, Charlotte, je l'ai mis l'extrait en VF.
Ouais, j'allais dire, la VF pique les oreilles, mais bon.
C'est ça aussi, je trouve, quand même, l'intelligence de cette série. Elle est truffée de références autant culturelles que sportives. Merci en tout cas, Charlotte, pour nous avoir donné ton ressenti sur cette vraiment, vraiment chouette série. Et puis aussi pour ne pas m'avoir spoilé la fin, parce que j'en suis qu'au milieu de la deuxième saison. Bien, nous sommes toujours en plein match de Gaulle Volant consacré aujourd'hui aux émotions dans le sport. Et avant de poursuivre dans notre thème, je laisse la parole à Maël qui nous propose son hors-jeu.
En avant, vous touchez le ballon, le 15, le 7 en position d'hors-jeu. Il touche le ballon avec le dos, vous êtes devant, vous jouez le ballon. Hors-jeu.
Alors, je vais vous parler aujourd'hui tout simplement de mon jeu de société préféré, Flamme Rouge. Alors c'est un jeu que vous l'imaginez avec des petits vélos. Hein. L'affaire se passe en 1932 sur les routes de l'Hexagone. On imagine l'ambiance. À base de saucissons, de vin rouge, d'accordéon, de bérets de travers à attendre le long de l'asphalte que les idoles déboulent. Les coureurs sont prêts, casquettes vissées sur la tête, moustaches parées à fendre la bise, les boyaux sur l'épaule, bidon rempli de jus de raisin, on va dire. Oui, je joue le côté immersion à fond, mais j'avoue que lorsque je m'attable à ce jeu, je deviens un coureur. Le but est simple, remporter la course du jour. Chaque joueur possède deux coureurs, un rouleur et un sprinter. Chacun ayant des caractéristiques propres. Le rouleur sera plus régulier, alors que le sprinter, lui, sera moins endurant au long cours, mais capable d'une accélération de tous les diables, à la Peter Sagan à la belle époque. Il s'agit d'un jeu de parcours tactique où la stratégie et l'endurance sont les clés. Au départ, chaque joueur possède les mêmes cartes pour chacun de ses pédaleurs qu'il faut utiliser à bon escient pour couper la ligne le premier. Mais attention, au fur et à mesure de la course, si vos coureurs font course en tête, ils accumuleront des courses fatigues qui pourraient bien les faire coincer en fin d'étape. Le parcours est différent à chaque course, tantôt plat et usant, comme une bonne grosse balade dans la Beauce, ou alors très vallonné à l'instar d'une étape pyrénéenne. Il faudra donc ménager vos efforts pour mener à bien votre favori sur le podium. Alors vous allez me demander, pourquoi ce jeu est génial ? Allez-y,
pourquoi, j'attends. Pourquoi ce jeu est génial ?
Nous, on sait déjà. Alors, ce jeu, il est génial, car il permet vraiment de s'immerger dans le dynamisme tactique d'une course de vélo. Rester devant pour ne pas perdre la roue des premiers, mais faire la course en tête, et prendre trop devant peut être l'erreur fatale. Il existe alors un mécanisme de jeu d'aspiration qui permet d'économiser ses forces. On peut rester planqué dans la roue de son domestique pour finir en folie. Et là où le jeu devient vraiment génial, c'est qu'il est possible d'enchaîner les étapes. Après l'étape, chaque joueur garde une partie des cartes fatigue accumulées, ce qui rend l'étape suivante liée aux efforts fournis auparavant. Un système de comptage de points permet même de décerner un maillot jaune qu'il faudra alors défendre. Il existe aussi des extensions de ce fabuleux jeu pour rendre la course encore plus palpitante. La météo peut se mettre à vous jouer des tours en provoquant des chutes ou des coups de bordure, des tuiles additionnelles pourvues de pavés pour se la jouer flandrienne, et une autre encore vous permet même de jouer tout seul.
C'est ça.
Vous avez devant vous le double vainqueur de Tour de France en solo. Eh oui, car j'ai oublié de le dire, dans la boîte se trouvent différents parcours, mais il existe aussi des fanas qui créent les Tours de France en se calquant sur les étapes. Donc je remercie Osastke, c'est un pseudo, hein, j'ai trouvé ça sur le net, pour avoir créé le Tour de France 2023, le Tour de France 2022, le Tour de France 2021, le Tour de France 2020, le Critérium du Dauphiné 2022, le Critérium du Dauphiné 2019, le Tour de Suisse 2021 et le Tour de Romorandie 2021. On va s'éclater. Par contre, je mets en garde, ce jeu est tout à fait addictif. Et une fois tombé dedans, on a hâte de remonter en selle pour aller titiller le maillot jaune ou alors de tenter de le garder une journée de plus sans pour autant accumuler trop de fatigue. De bien belles nuits en perspective s'offrent à vous.
La foule attend le Tour de France. À quel tintamarre, à quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair au matin clair.
Merci Maël, ça m'émeut que tu m'aies fait revivre ces longues heures de partie de Flamme Rouge avec toi sous la canicule de Dordogne et des Alpes. Et je crois bien que malgré tout, j'ai toujours pas compris comment on jouait.
Comment on gagnait.
Ouais. Je me garderais bien de t'expliquer.
Gaulle Volant, l'émission de sport et société, en balade aux diffusions sur toutes vos plateformes préférées.
Bien, c'est maintenant le moment de celui que vous attendez toutes et tous, celui dont la voix suave et voluptueuse suscite un feu d'artifice d'émotion en chacun de nous. C'est à toi, Jérôme.
Magnifique. Vous faites du sport ?
Même pas.
Superbe.
Disons que j'ai un bon pédigré.
J'ai l'impression que c'est l'inverse.
Et oui, c'est à moi de vous parler sport et émotion, et ça va être épais, croyez-moi. Allez, plongeons dans un de mes dimanches matins classiques. Dimanche matin, ma morning routine va pouvoir commencer. Tout d'abord, je commence la journée par quelques étirements, utiles à un bon réveil de mon corps. Puis je me dirige vers la cuisine. Là, je lance ma playlist développement personnel. Et je commence la journée par un grand verre d'eau, puis un verre de jus de cranberry, idéal pour la bonne élimination des toxines. Je pars courir 30 minutes, presque à jeun, toujours le même parcours. Je finirai évidemment par des exercices de tai chi dans le parc. En rentrant, petit déjeuner, fruits frais, graines de chia et boulgour du Tibet pour accompagner un thé vert. Après tout ça, je m'installe confortablement dans mon fauteuil pour relire Proust une énième fois à la prochaine instance. Comment ? Ce n'est pas crédible. Bon, ok, je vais vous livrer ma vraie morning routine du dimanche matin avec les émotions qui l'accompagnent. Ah putain ! Il est quelle heure ? Putain. Qui est-ce qui gueule comme ça là ? Oh putain, merde ! Putain, j'ai pas mis de réveil, je suis con. Ah, j'en chie. Oh là, c'est dur. Je me lève donc. J'ai la bouche pâteuse, un léger mal de crâne, un peu mal à la gorge.
Jérôme a des regrets.
Oui, je regrette la dernière heure de la soirée de la veille. Celle des shooters, de quelques cigarettes et des discussions. Mais puis je t'ai dit que la dernière fois, on avait bu 3 pintes et pas 4. À côté de moi, ma compagne dort, apaisée, sereine.
Jérôme est amoureux.
Je me lève et m'installe tranquillement à la table du petit déjeuner. Eau, fruits, graines. Le petit déjeuner est un repas important, il se doit d'être sain. Si, si, je vous... Non, ok, je vais la jouer honnête. Un gros café avec quelques grosses tartines.
Jérôme trouve du réconfort dans la nourriture.
Vite ! Je dois faire mon sac. Putain, le match commence dans 40 minutes. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes protège-tibias ? Merde, je devais passer récupérer les ballons chez Jojo. Les noms ont été modifiés hein, pour préserver l'anonymat des vrais joueurs.
Jérôme est stressé.
Bon, finalement, Jojo vient. Il faut toujours le supplier, alors que sans raison valable, il ne raterait jamais un match. Il a besoin d'être rassuré. Il veut qu'on lui montre qu'on tient à lui, il est mignon.
Jérôme est attendri,
et donc,
attendri comme devant un petit chiot qui joue avec les pissenlits au milieu d'un jardin fleuri dans la campagne alors que le soleil se couche et que loin un paysan ramène son troupeau de vaches à l'étable.
Ok, bon, c'est vraiment une émotion très d'été. Je pars en vélo, non sans m'être brossé les dents. Arrivé au terrain, je retrouve toute l'équipe. L'air est frais, mais il fait beau.
Jérôme est vivifié.
On se prépare dans la bonne humeur, j'aime ces moments-là. On est là, tous ensemble, les ballons sont sur le sol. Nos regards qui se croisent, c'est toujours les mêmes gestes.
Jérôme, même s'il en a chié à se lever, est très heureux d'être là.
Après un échauffement sérieux, on va dire un échauffement.
Jérôme a un peu honte, mais juste un peu.
Le match peut commencer. On salue nos adversaires, puis le match démarre. Première passe en retrait vers moi. Je contrôle, puis adresse une passe qui file directement en touche.
Jérôme s'en veut.
Deux chambrages de la part de mes coéquipiers, défenseurs centraux, et je comprends que je ne peux pas me permettre de leur offrir autant d'occasions de se moquer de moi. Je rentre alors dans mon match. Sur le second ballon que je touche, je réussis un beau dribble.
Jérôme est fier.
Mes coéquipiers de la défense me chambrent encore. Ils prétendent que ça ne me ressemble pas.
Jérôme est résigné.
Ils se moqueront quoi qu'il arrive. Le match est équilibré. Je me démène au milieu, parfois pour rien, parfois pour quelque chose. En tout cas, je me sens mieux. Je suis sur mes gardes, car mon vis-à-vis est un sacré manieur de ballon.
Jérôme est méfiant.
Peu avant la mi-temps, Jacques se blesse. Ah, c'est con le pauvre, il revenait de blessure.
Jérôme est peiné.
Alors qu'on se dirige vers un score nul et vierge, pour la mi-temps, je me troue en perdant un ballon à 25 mètres de mon but.
Jérôme se sent fautif.
Heureusement, Jojo a rattrapé le coup derrière en récupérant le ballon dans les pieds de l'attaquant adverse.
Jérôme est reconnaissant envers Jojo, mais aussi très surpris car il ne l'avait pas forcément habitué à ça.
Mi-temps. On se retrouve.
Jérôme se sent embarrassé, comme un petit chiot qui aurait fait pipi sur le tapis du salon.
C'est pas ce que j'ai avec les chiots. Bon. Voilà, j'étais embarrassé par rapport à la perte de balle. Pendant la mi-temps, nous changeons de gardien. Karim passe au but. Il enlève son maillot pour revêtir la tenue de portier. L'occasion pour lui de montrer son ventre plat et ses abdos.
Jérôme est jaloux.
La seconde mi-temps démarre. Un contact un peu rude se fait entre deux joueurs. Le joueur adverse décide alors de reprocher à mon partenaire son manque d'envergure physique en le traitant, je cite, de pédale.
Jérôme est excédé. Jérôme est mécontent. Jérôme est super vénère.
Tout rentre dans l'ordre. Bah, c'est-à-dire que le joueur adverse s'excuse et annonce qu'à partir de ce moment, il ne sera plus homophobe.
Jérôme délire, non?
Notre équipe finit finalement par prendre deux buts, assez logiquement.
Jérôme est déçu.
En fin de match, nous réduisons le score, puis tentons coûte que coûte de revenir. Nous assiégeons le but adverse, nous touchons le poteau, puis leur gardien réalise une parade importante. Ce n'est pas grave, on y croit toujours.
Jérôme est transcendé, déchaîné, comme un petit chiot qui court après sa propre queue.
Finalement, la fin du match est annoncée. Nous ne sommes pas revenus au score. Mais le scénario à suspense de la rencontre fait que le match était plaisant à jouer.
Jérôme est satisfait, quoique un peu dégoûté.
Après le match, les vannes s'enchaînent au bord de la pelouse. Comme souvent, c'est Jojo qui est au centre de l'attention.
Jérôme est fourbu, serein, joyeux, détendu, cool, zen, amusé, apaisé comme un petit chiot qui semble aller entre les pattes de sa mère.
Mais pourquoi donc vous raconter tout ça? Et encore, hein, c'est à la va-vite. Hein. Eh bien, pour vous montrer que ce banal match de foot du dimanche matin est pour moi vecteur de bien des sensations, bien des émotions, pour les bonnes comme pour les mauvaises. Il serait donc impensable pour mon équilibre psychologique de renoncer à cette pratique. Pas seulement pour le défouloir qu'il représente, mais aussi pour la quantité de moments qu'elle me permet de vivre. Non, jouer au foot, ce n'est pas que courir derrière un ballon, la langue pendante, comme un petit chiot.
Merci Jérôme. T'as vraiment l'air de passer par tout un panel d'émotions, toi, quand tu joues.
Et il a fallu que je... Vraiment que je sabre.
Tu chantes, ouais. Ouais. Tu dois ressortir les civets.
Effectivement, je dors là, le dimanche après-midi.
Bon alors, parmi toutes les émotions du foot pendant un match, il y en a une qu'on évoque souvent. C'est celle de l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty.
L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Tout le monde a ce titre de Peter Hanke en tête. Un titre accrocheur par le contresens affiché. On sait bien qu'à propos du gardien de but et du pénalty, on ne peut parler d'angoisse. Dans le duel gardien-tireur, le goal n'a pas le temps d'être angoissé. C'est lui qui joue le rôle actif, qui fait plus ou moins mine de rien son petit cinéma. Pour lui, l'alternative est simple, il va plonger à gauche ou à droite, en espérant que ce sera le bon côté. Quant au tireur, c'est beaucoup plus délicat. Il sait que sa réussite est attendue, normale. La pression sur lui est maximale, surtout quand le pénalty est sifflé sur la fin de la partie, et plus encore quand il s'agit d'un tir au but aux conséquences parfois définitives. Il lui faut alors quitter le rond central en marchant lentement, comme dans un western, entendre toute la rumeur d'un cop agaçante quand elle prend la forme des ladis des supporters de l'équipe adverse, mais peut-être plus éprouvante encore lorsqu'il s'agit de la ferveur exacerbée de ses propres supporters. D'habitude, il la met du plat du pied à gauche, à ras de terre, mais ne serait-il pas opportun cette fois de tirer en force du coup de pied? À gauche ou à droite? Et pourquoi pas en hauteur au centre, puisque le gardien va plonger? Restent ces quelques secondes où la gorge se noue. Le tireur vit, le gardien joue. Philippe Delerme, La Tranchée d'Arenberg.
Voilà, je vous conseille également ce bouquin de Philippe Delerme qui, avec une cinquantaine de nouvelles, évoque ce qu'il appelle des voluptés sportives, comme des petites madeleines de Proust qui nous font vivre ou revivre des instants d'émotion sportive. Bien, on arrive au terme de notre émission. C'est le moment pour nous remettre de toutes ces émotions, de profiter de la troisième mi-temps avec Julien.
De bière.
Salut à vous. Alors, moi je me suis lancé comme défi d'allier plaisir et travail pour cette troisième mi-temps, et donc je suis parti avec mon Zoom en vacances. Au programme Road Trip in the UK, en me disant que j'allais bien me trouver un ou une sportive anglaise à interviewer là-bas. Ça serait vraiment top pour me faire redorer le blason et prendre du grade dans l'équipe. Peut-être même quitter cette place de luron de la troisième mi-temps et devenir enfin un vrai journaliste sportif. Alors j'ai mis la barre haute. Entre l'équipe et Mediapart, je vous annonce du journaliste de terrain comme on l'aime. Attention, c'est du lourd, de l'exclusif. DJ, break that hit. Ah là, ça y est, je pense que j'en ai un. Il y a un t-shirt, on dirait un t-shirt de foot. Ah, c'est pas un gros comme j'ai vu jusqu'à...
Ah non, là, ça passe pas, c'est carton jaune.
Non, mais oh, quand même, là, on peut plus rien dire.
Ouais, Julien, Julien, tu te tais, tu écoutes l'arbitre, sinon tu vas t'en prendre un deuxième. Oh, tu te tais.
Ah, ça va, ça va.
Allez, on retourne à ton interview.
Il a l'air bien baraqué, je pense que lui, c'est un sportif. Je vais aller le voir. Excuse me, mais... Could you stay a minute with me?
You want that puff? Yeah, no problems.
I'm Julien from Gaulle Volant. Gaulle Volant is podcast in French, like the BBC. You know BBC?
Yeah, the BBC. Yeah.
The same in France. It's about a sport, and you've got one t-shirt of sport. Your t-shirt, yeah. Could you talk about your t-shirt, please?
Oh well. Well, actually, I found this dumpster diving. I spent all my money that I got off the rock and roll, and didn't have enough money for a decent t-shirt. So I went to the local clothes bin, grabbed this one out.
Yeah. Cool, thank you. Can you introduce yourself also and maybe talk about the city? Here we are in Bedfordshire.
That's right, yeah.
So what is your name?
Oh, my name's Hugh. I'm on the rock and roll, as I said earlier. This team, I don't even know. Oh, it's Bedford. It's the Bedford Wolves.
Okay.
Yeah.
Thank you very much. And for you, what is important in the sport?
Fair play most of the time, I guess.
Oh, no.
And a good piss up, I'd have thought, as well. Sunday's Jesus' day, mate. No, we don't play sport on Sundays.
Okay. But for you, would you say it's important to be professional, or would you play rather like for your pleasure?
I mean, I'm always in it for the pleasure, mate. But I don't know.
Just for finishing, a little game, a little play to you have to choose. Darts or soccer?
Ooh, it's got to be football, mate. That's where the beer's at.
Pool or rugby?
Yeah, I'm not so keen on swimming, mate, so it'd have to be rugby.
Cricket or golf?
Golf's for posh cunts and that. No, I think I'll probably go for the other one. Forgot what you said. See, it's been an early day. I started a bit early today, mate.
And maybe for my friends, could you said... Gold Volant?
Gold Volant.
Oh, thank you very much, man.
C'est fini, là.
Bah ouais, c'est trop bien. Non. À moi les lauriers, là.
Non, attends un peu, tu nous dis que c'est fini, là. Tu nous expliques ce qu'il a dit, le gars.
Il s'appelle You. Il fait du sport.
Ouais.
Non,
c'est bien.
Il fait pas du sport.
Mais du coup, on en fait quoi de ton interview, là?
On va bien réussir à recruter un prof d'anglais, là. Il pourra nous valoriser ça, non?
Coucou. <Ouais. rire>
Bah effectivement, avec ce boulot-là, ça risque d'être fini pour toi la troisième mi-temps dans Gaulle Volant. Tu vas vite te retrouver à la technique, désolé Quentin, c'est pas péjoratif, ou au covoiturage. Oh. Bon, ben voilà, je suis bien désolé, chers auditeurs et auditrices, mais c'est malheureusement de cette façon que s'achève ce match de Gaulle Volant. Comme tous les autres matchs tout aussi riches en émotions, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux en tapant tout simplement « Gaulle-Volant ». Merci à vous, chères chroniqueuses et chroniqueurs, sauf Julien, pour toutes vos grandes, pour toutes vos grandes qualités journalistiques et humaines.
Que d'émotions, mais que de fierté aussi. Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme.
Merci à Timbre FM, la radio associative d'Augan, pour nous avoir accueillis dans ses studios. Et merci à Quentin, qui a assuré non sans une certaine émotion la technique aujourd'hui. Et promis, Quentin, on ne te remplacera pas par Julien. Allez, salut.
Bonjour ma colère, salut ma hargne et mon courroux. Coucou.
Garde le rythme, mon remue s'occupe pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Semou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà.
Balance man, trace la classe, c'est le Bobman. Courage. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi.
J'ai.
Ouh.
Oh.
Là.
Mais ne courez pas comme des cons.
Allez, mets un rouge là-dessus.
Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe.
Et on va...
Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là!
Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis.